voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Salut Luc!
Salut Eric!
Écoute, il y a 40 ans, d'abord, il y a 40 ans, étais-tu au monde? Oui, je pense que oui. Hein?
J'adore ta question.
Parce qu'il y a 40 ans, il s'est passé un événement politique extraordinairement important dans l'histoire du Québec. C'était le premier référendum sur la souveraineté avec comme chef du oui René Lévesque, comme chef du non Claude Ryan. J'ai l'impression aujourd'hui, je sais pas si je faisais un vox pop dans la rue, si je parlais aux gens de 30 ans puis 25 ans, s'il y a des gens qui seraient même capables de me dire en quelle année puis qu'est-ce qui s'est passé. J'ai comme l'impression, ça fait 40 ans puis c'est un événement très important dans l'histoire du Québec, mais j'ai comme l'impression que ça s'est effacé vite.
Oui, ça s'est effacé pas mal vite. Hein. Je sais pas si tu te souviens au lendemain du référendum, mais c'est bon, il y a eu toute cette espèce de valse constitutionnelle qui s'est enclenchée un peu partout là. Mais pour le reste, la vie a repris très normalement, sans trop de heurts. Vraiment, ça a été comme un lendemain qui était une sorte d'anticlimax énorme. Et je m'en rappelle parce que moi, j'étais à ce moment-là journaliste à Ottawa pour le réseau TVA. Et donc, j'avais couvert la campagne référendaire par l'angle du gouvernement fédéral. Et ça, je trouve ça amusant de lire les reportages qu'on fait maintenant. Et qui ont tendance à confirmer ce que je perçois depuis fort longtemps, à savoir un désir profond de réécrire l'histoire. Surtout chez les nationalistes, un désir profond de démontrer qu'ils se sont fait voler quelque chose, ou qu'il y a quelque chose de pas correct qui est arrivé, ou qu'ils ont voulu
Mais il s'est passé des choses un peu bizarres. Tu sais, Pierre-Éliott Trudeau qui dit « Je mets mes sièges en jeu pour du changement », on s'attendait pas à que ça soit le rapatriement sans l'accord du Québec. Là. Il y a quand même eu des affaires là-dedans. Le fédéral a quand même joué, avait quand même un message ambigu qui portait à confusion. Là.
Cette interprétation de l'histoire qui est courante,
oui.
Je ne la partage pas du tout.
OK.
Je ne la partage pas du tout. Pierre-Éliott Trudeau, et là, je veux pas le défendre, ni le contraire, ni l'attaquer, ni le défendre. Pierre-Éliott Trudeau est arrivé en politique avec un programme dans sa tête qui était un programme constitutionnel, puis il n'en a jamais fait de secret.
Ça, c'est vrai.
Il a offert sa vision de la réforme constitutionnelle lors de l'accord de Victoria, des affaires qu'on a oubliées. Lors de toute sa carrière, il a toujours tenu le discours d'une réforme en profondeur de la Constitution qui impliquerait l'ajout d'une charte des droits et libertés. Alors, soudainement, parce que j'étais là à ce discours-là, c'était au Centre Paul Sauvé, c'est un des plus grands discours politiques que j'ai jamais vu de ma vie, je te le dis, sur le plan électrisant, là. C'était absolument incroyable. Trudeau, quand il était à son meilleur, pouvait être un orateur absolument hors pair. Et Trudeau, ce soir-là, moi, j'étais là, là. Puis je suivais la politique, là. Puis jusque-là, j'avais été fondamentalement un peu séparatiste parce que c'était de ma génération.
Ah oui? Je savais pas ça. Tu avais de la racine séparatiste en toi à une certaine époque.
Ben écoute, quand je veux dire, pour moi, être séparatiste, c'est comme l'acné. Hein. Si tu n'as encore rendu à 30 ans, là, il faut travailler voir ton dermatologue.
Si tu n'as pas 20 ans, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tes hormones, puis tu l'as encore à 40 parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore.
C'est comment disait Churchill? Si t'es pas communiste à 20 ans, c'est parce que t'as pas de cœur. Puis si t'es encore communiste à 40 ans, c'est parce que t'as pas de tête.
C'est ça. Fait que le séparatisme, c'est un peu la même affaire.
C'est un genre d'affaire comme ça. Alors, quand Trudeau a dit ça, on met nos sièges en jeu pour avoir du changement. Honnêtement, là, moi, là, j'étais sûr qu'il parlait des changements qu'il allait mettre en branle. Jamais Trudeau n'a parlé de « m'en va donner plus de pouvoir au Québec ». Il a jamais été question de ça.
Mais t'as raison fondamentalement.
Okay, laisse-moi finir mon argument. Quand aujourd'hui, on dit il a promis des changements puis il n'a rien fait, je pense qu'il y a eu 69 changements dans la Constitution. Je pense que le changement constitutionnel a été profond. Je pense qu'il est encore en train d'être sur le plan historique analysé. Le rôle de la Charte des droits et libertés, comment cela a changé notre pratique de la démocratie, pour le meilleur et pour le pire, j'insiste. Alors moi, cette lecture que les nationalistes ont dépeinte maintenant, je n'y crois pas. C'est tout comme d'ailleurs, ça va avec le discours qui est « Ah, puis Trudeau, je te dis qu'on était plus capable d'y voir la face. » Hein, au moins, La dernière fois qu'il s'est présenté devant l'électorat québécois, il y a eu 74 comtés sur 75. Puis il y a eu 53-54% du vote. Alors, toute cette réécriture de l'histoire, je te le dis, m'agace profondément.
Mais en même temps, le soir du discours dont tu parles, là, il a quand même dit à l'intérieur de ce discours-là là, que c'était les députés du Québec qui insistaient pour avoir du changement, puis que c'était un message au Canada anglais qui voulait envoyer qu'il y aurait du changement. C'était pas des changements contre le Québec, là. Et ce qui est arrivé, tu sais...
Contre le Québec, il n'était pas question de contre
mais
le
non,
Québec.
Mais non, mais à partir du moment où... Ben ça, c'est l'autre affaire. Là. On peut parler de la nuit des longs couteaux, mais là, on est après le référendum, on est en train de s'éloigner. Mais on a comme l'impression qu'il a trahi le Québec en quelque part dans ses projets de réforme. C'est ce que j'en ai retenu.
Je te le dis, là, je ne partage pas du tout cette vision de l'histoire.
Mais la majorité des Québécois pensent ça, là. Je regarde, j'ai déjà
ben oui, je le sais, mais à force de le répéter, comprends-tu, ça finit par coller. Écoute, moi, j'étais, là, au Centre Paul Sauvé, là, puis tout le monde s'est levé, puis il l'a applaudi à tout rompre, puis tout ça. Mais il n'a pas dit « je m'en vais envoyer des pouvoirs au Québec, puis je m'en vais envoyer je sais pas quoi. »
Je vais reconnaître non. comme un peuple ou une nation, puis je vais...
Il n'a jamais parlé de ça. Il l'a jamais dit. Il n'a jamais même suggéré, même... Il n'y avait pas la moindre allusion. Les gens qui ont entendu ce qu'ils ont entendu, c'est parce qu'ils voulaient entendre ce qu'ils ont entendu.
Puis, parce que le référendum a été gagné 60-40 par le oui, par le non, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui a été l'élément qui a fait, selon toi, basculer? Parce que on sait que le Parti québécois avait bien commencé sa campagne référendaire. Est-ce qu'à un moment donné, tu as cru, toi, que le PQ pouvait gagner son référendum en 80?
Jamais.
Tu pensais que c'était condamné jamais. D'avance?
Je pense que c'était condamné d'avance. Il y avait une question générationnelle aussi, qui n'est plus du tout le cas maintenant, là, mais il y avait une question générationnelle, à savoir que la jeunesse, et prenons-les comme 40 ans et moins, était, chez les francophones, majoritairement, très majoritairement, en faveur de l'indépendance. Mais la génération plus âgée n'était pas en faveur de ça, parce qu'ils voyaient des troubles qui allaient émerger de ça, qui allaient peut-être venir déranger leur vie. Peu importe les motivations, il y avait une question générationnelle en 1980 qui ne s'est pas posée en 1995, parce que ça ne se présentait pas vraiment de la même façon.
Puis parle-moi des Yvettes aussi, parce qu'on accuse souvent Lise Payette d'être responsable de la défaite référendaire, dans le sens où elle a fait un discours un peu maladroit, où elle parlait de la femme de Claude Ryan, et où elle l'a comparé à une femme docile et obéissante qui s'occupait de ses enfants plutôt que de travailler, puis de la femme moderne. Est-ce que ça a eu un impact, selon toi, sur le résultat, ou ça a été plus, ça aussi, ça fait partie de la réécriture de l'histoire?
Non, ça a eu un impact majeur. Ça a eu un impact majeur parce que bon, les Yvettes, là, ce qu'il y avait dans ça, c'était la chose suivante. Dans le discours péquiste de l'époque, dans le discours séparatiste de l'époque, il y avait quelque chose de profondément condescendant. À savoir que si tu n'avais pas compris qu'il fallait que le Québec se libère de ses chaînes et tout le blablabla, tu avais quelque chose dans la tête qui marchait pas. Alors, Lise Payette, en disant ce qu'elle a dit, et c'était plus méchant que ce que tu as dit là, tu sais, des femmes québécoises, c'était des Yvettes qui étaient soumises. Puis d'ailleurs, M. Ryan en a une femme qui est une Yvette qui est soumise. Ça n'a pas de bon sens, comprends-tu? C'était une militante de toutes les grandes causes. Ça n'avait aucun sens. Et soudainement, ça a eu l'effet de la claque sur la gueule de ce que le monde sentait, ce côté. Je sais pas, mais t'entendais des gens qui disaient, ben moi, je trouve que le Canada, ça va bien. Je voudrais rester là-dedans. Traître. Con, imbécile, vendu, tout ce que tu veux y passer, comprends-tu? Et elle, en un discours, a réussi à cristalliser ça, cette espèce de mépris. Si t'étais pas indépendantiste, tu devais avoir quelque chose qui marchait pas entre les deux oreilles.
Mais il y avait aussi un mépris envers la femme qui restait à la maison puis qui élevait ses enfants, là. Puis il y en avait à cette époque-là.
Il y avait ça aussi.
Là. Fait que ça aussi, ça a pas aidé. Là. Le discours ultra-féministe à l'époque, il y en a qui ont eu des problèmes avec ça, puis ça, j'imagine que ça a pas aidé leur cause, là.
Ah ben, ça n'a évidemment pas aidé leur cause, parce qu'encore une fois, replaçons-nous, ça fait 40 ans. Donc, la femme québécoise sur le marché du travail, ça avait commencé plus ou moins 35 ans auparavant, après qu'avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'il y avait encore de cette tradition. Nos mères, la mienne, les gens de cette génération-là, ça a été beaucoup des mères au foyer. Ils écoutaient ça, puis ils disaient, qu'est-ce que j'ai fait de mal, madame-là?
Pourquoi
qu'est-ce que j'ai fait de mal, qui était madame-là, là? La grosse madame a dit des affaires pas fines. Puis d'ailleurs, ça a caractérisé, moi je sais que C'est un de ces monuments sacrés qu'on ne peut pas toucher, mais ça a caractérisé beaucoup toute la carrière de Lise Payette.
Ben oui.
Cette espèce de condescendance, puis de méchanceté, puis de... Tu sais, je me souviens, entre autres, quand elle était à Tout le monde en parle, puis il était question du pipeline ou quelque chose du genre, là, de pipeline. Puis elle me dit, vous n'avez pas compris après lac Mégantic? Oui, mais épaisse. Lac Mégantic, il y avait eu un pipeline, ça serait jamais arrivé.
On n'aurait pas eu de lac Mégantic, c'est exactement ça. Mais le soir du référendum, René Lévesque était quand même accompagné de elle et de sa femme sur la scène pour le discours de la défaite. Ils ont quand même voulu envoyer. Ils se sont collés dessus, puis ils sont morts avec elle. Ils l'ont pas abandonné en cours de route. Là.
Ben, ceci en dit beaucoup sur René Lévesque lui-même et la noblesse de cet homme. Comme tous les hommes d'État, il y avait ses défauts, ses qualités, mais c'était un homme qui avait un sens de l'État, de la noblesse. Alors, t'es allé à la guerre, puis il y a quelqu'un dans ton équipe qui a fait une erreur, mais on est là-dedans ensemble. C'est comme un régiment de l'armée, là. Tu sais, on tous pour un. Alors, dans ce sens-là, c'était plus, je pense, un reflet de la noblesse de René Lévesque qu'autre chose.
Puis c'était pas une autre façon de voir. Il voulait pas endosser nécessairement ce qu'il avait fait. Je veux te parler aussi de déconfinement parce que ça se passe pas il y a 40 ans, ça se passe maintenant. On va peut-être annoncer des mesures aujourd'hui d'ailleurs sur les salons de coiffure. On a très 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 hâte que d'aller voir nos barbiers dans certains cas. Qu'est-ce que tu penses de ce plan de déconfinement du gouvernement Legault qui a comme un striptease à tous les jours, nous en annonce un petit morceau? Est-ce que c'est vraiment la façon de faire? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent, Luc, puis les gens trouvent toutes des contradictions. Pourquoi lui, puis pas moi? Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? On a de la misère à suivre la logique derrière tout ça.
Ben, c'est que on a de la misère parce que c'est dur de suivre la logique derrière tout ça. D'abord, qu'on procède à un déconfinement, ça va dans l'ordre des choses. Et qu'on le fasse à ce moment-ci, ça va également dans l'ordre des choses. Et pour être un petit peu positif, si tu regardes le déconfinement qui prend place en Europe depuis maintenant 10 jours, 12 jours, 10 jours, ça se passe plutôt bien.
Oui.
On avait une peur folle que ça décolle vers le haut, la contamination. À l'heure actuelle, avec les chiffres qui sont disponibles, ce n'est pas le cas.
Mais nous autres non plus au Québec, en passant, là, depuis qu'on déconfiné, par exemple, la construction résidentielle, même les écoles, on voit qu'il n'y a pas nécessairement eu une montée. Au contraire, il y a continué à y avoir une décroissance. Là.
Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Mais quand tu écoutes M. Legault et le Dr Arruda, et je le dis en tout respect, qui commencent à nous donner des histoires comme, bon, la question, pourquoi j'irais pas, hier, je pense qu'elle a été posée hier en conférence de presse, pourquoi j'irais pas faire un barbecue chez mes chums si on respecte les règles? Puis là, tu vois bien que devant ça, là, tout ce qu'ils ont comme réponse, c'est quelque chose dans le genre, oui, mais quand vous êtes comme ça à un repas où la tentation est plus grande après un verre de vin, d'oublier les directives, blablabla, c'est qu'à un moment donné, ça fait, ou la fois où on lui a dit, bon, ben, les enfants, les grands-parents peuvent les garder, là. Ah, ben, c'est formidable. Mais là, il dit, mais il n'est pas question qu'il aille faire un repas chez les grands-parents. Ah non? C'est quoi la différence? Parce que si je les garde, j'ai tendance à leur donner à manger, tu comprends?
C'est la logique.
C'est dur à suivre. C'est dur à suivre. Mais je me réjouis d'une chose. Je trouve que ça se passe pas si mal.
Ouais, puis moi, je trouve que Legault, malgré le... Puis tu sais, c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur encore... quoi qu'il y en a de moins en moins, mais il résiste quand même, puis continue à avancer, puis rentre son plan, puis il écoute la santé publique, mais on sent qu'il est plus pressé que la santé publique. En tout cas, moi, c'est mon feeling.
Ben, ça m'apparaît être le cas dans tous les pays du monde. Hein? La santé publique ou leur équivalent maibrique un peu pendant que le politique doit aller par en avant. Bon, ça m'apparaît pas contournable, mais bon. Mais dans le cas de Legault, ce que je veux lui donner et lui concéder, je pourrais partir à lui faire des reproches, c'est que il a réussi à développer un ton pour s'adresser aux Québécois, qui est tout à fait approprié.
Ouais.
Au lieu de faire comme Trudeau puis lire un télésouffleur, il arrive puis on sent qu'il y a des notes devant lui, là, mais il parle sur un ton où tu as l'impression qu'il te parle.
Ouais.
Et ça, c'est dur à atteindre ce niveau. C'est comme un syntonisateur sur une radio de l'ancien temps, là, que tu arrives, tu as trouvé en plein la longueur d'onde que tu veux. Moi, je trouve que là-dessus, il faut lui reconnaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès.
Quand c'est rendu que Luc Lavoie parle positivement de François Legault, c'est parce qu'il faut mettre fin à l'entrevue. Merci beaucoup, Luc!
Salut, Éric.
À la semaine prochaine. Bye.